Bonjour à tous, je vous remercie beaucoup Madame d'abord de m'avoir invitée, ça s'est fait rapidement et de manière très agréable, et puis je vous remercie toutes et tous d'être si nombreux aujourd'hui. Je dois dire que je ne m'attendais pas à une telle assemblée, donc je suis très heureuse de vous saluer. Donc je vais vous parler aujourd'hui de Charles de Gaulle pendant la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous entendez tous correctement, ça va? Sinon, vous me faites signe. Alors, je n'ai pas d'image à vous montrer, parce que d'abord, il y a très peu d'images, mais je vais essayer de compenser l'absence d'illustration par une évocation qui, j'espère, sera suffisamment imagée pour rendre mon récit vivant. Alors, Charles de Gaulle, pendant la Première Guerre mondiale, c'est une idée qui a jailli doucement, si on peut dire, dans mon esprit, et qui a été un petit peu précipitée par l'arrivée de ce centenaire. Je pense que vous avez tous entendu parler de ce centenaire de la Première Guerre mondiale, pour lequel l'État met des moyens importants et qui suscite une grande vocation dans nos territoires. Il y a beaucoup de projets, d'expositions, de livres sur la Première Guerre mondiale. Alors ce centenaire a été un prétexte, et finalement avoir un prétexte est parfois bon quand ça permet de remettre à la lumière des sujets qui ont été longtemps laissés de côté, et ce qui était le cas du sujet de la Première Guerre mondiale de Charles de Gaulle. On est avec Charles de Gaulle pendant la Première Guerre mondiale face à une sorte de tabou, hein, je n'hésite pas à le dire, parce que j'ai côtoyé beaucoup de gaullistes historiques, dont la plupart ont disparu maintenant, et pour lesquels ce sujet était un non-sujet. Je me rappelle en avoir parlé par exemple avec Jean Foyer, qui a été un des ministres du général de Gaulle, qui m'avait dit « Mais pourquoi voulez-vous parler de la guerre du général de Gaulle, de sa première guerre ? Il a été fait prisonnier. » C'est tout ce qu'il avait retenu. Le seul vrai de Gaulle pour ces gens-là, pour les gaullistes historiques, pour les gaullistes de la Seconde Guerre mondiale, c'est celui du 18 juin 40, avant toute chose. C'est là qu'il naît, c'est là qu'il arrive dans l'histoire. C'est un de Gaulle en habit de lumière, si vous voulez, qui est symbolisé par des images qui sont devenues des icônes et qu'on a tous à l'esprit, que ce soit de Gaulle au micro de la BBC le 18 juin, que ce soit de Gaulle sur le pont de la combattante avec son ciré et ses jumelles, ou encore mieux, de Gaulle qui descend les Champs-Élysées en août 44. C'est ce de Gaulle-là qu'ils connaissent et qu'ils reconnaissent, et pour lequel le départ pour Londres a été l'acte de naissance. Et de manière assez étonnante, je dois dire, les historiens ont réagi un peu de la même façon, c'est-à-dire que aucun, jusqu'à aujourd'hui, ne s'est penché sur cette histoire de la Première Guerre mondiale. Il n'y a aucune monographie sur le sujet, zéro. Il y a des évocations chez La Couture dans les biographies qu'il a écrites, bien entendu, mais pas de livre consacré à ce thème-là, ce qui est finalement très étonnant en comparaison avec tous les livres qui paraissent encore chaque année sur Charles de Gaulle, sur des aspects parfois très pointus de sa biographie. Je signale simplement qu'il y a eu une exposition sur De Gaulle soldat il y a quelques années, et un catalogue de cette exposition qui est tout à fait honnête, hein, avec des documents intéressants, mais pas vraiment une recherche approfondie. Alors, le troisième aspect, après les gaullistes historiques et les historiens, c'est que De Gaulle lui-même, en fait, partageait ce point de vue. Il a toujours été très très discret sur cette Première Guerre mondiale. C'était pour lui-même un sujet tout à fait tabou. Il n'a rien écrit là-dessus. Alors quand on compare ça avec les trois volumes de ses mémoires de guerre qui sont entièrement consacrés à la Seconde Guerre mondiale, on voit qu'il y a une différence énorme. Il a parlé de la Première Guerre, mais dans ses ouvrages de l'entre-deux-guerres notamment, mais pas sur un plan personnel. Il a raconté des choses sur la stratégie, il a critiqué l'attitude du commandement, il a décrit les assauts dans les tranchées, mais jamais en disant « je » et jamais en expliquant ce que lui avait ressenti à ce moment-là. En même temps, il n'a jamais considéré que cette première guerre était anodine. Ça ne veut pas dire qu'il la tient pour portion congrue, mais il s'est tu à ce sujet-là. Et depuis le début, depuis que je travaille sur ce personnage, j'ai l'intuition, au contraire, que cette première guerre a été un moment clé dans son destin, mais il fallait encore pouvoir le prouver et essayer de trouver des documents. Alors, quand j'ai abordé le sujet, la crainte habituelle quand on aborde ce genre de sujet, mais j'ai eu le même problème avec Yvonne de Gaulle, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on va trouver comme document? Qu'est-ce qu'on va faire? Un historien ne peut pas travailler sans source originale, sans source primaire, Et une grande partie de notre travail, c'est un travail d'enquêteur qui consiste à aller chercher des archives, à les recouper entre elles et à essayer de voir ce que l'on trouve. Mais en réalité, c'est comme toujours dans la vie, quand on cherche, on finit toujours par trouver. Et il faut toujours commencer par le plus simple. Alors le plus simple, quand on aborde la Première Guerre mondiale, c'est d'aller faire un tour du côté de ce qu'on appelle les JMO. Alors peut-être certains savent ce que sont des JMO. Ce sont les journaux des marches et des opérations. C'est une archive extrêmement commune de la Première Guerre mondiale. C'est un journal que chaque régiment de l'armée française tient au jour le jour pendant la Première Guerre mondiale et dans lequel il note les déplacements, l'endroit où il va, le but de l'opération, combien d'hommes ont été blessés, combien ont été tués, combien sont disparus, l'ambiance, ça peut être très succinct, puis il peut y avoir des longues descriptions. De manière surprenante, le JMO du régiment de Charles de Gaulle, qui était le 33e régiment d'infanterie, n'avait jamais été consulté par aucun historien. Alors que c'est très simple, aujourd'hui, ils sont en ligne sur Internet, sur le site du ministère de la Défense, tout un chacun peut aller le consulter, c'est vraiment d'une consultation très facile, et c'est un document assez passionnant, parce qu'on a là un récit vraiment très très précis de la guerre de Gaulle, et surtout, on peut commencer à s'amuser, à le comparer à ce que De Gaulle écrit lui-même, parce qu'il a quand même pris des notes pendant sa Première Guerre mondiale, et il est intéressant de comparer ce qu'écrit le régiment de manière officielle et ce que note De Gaulle de son côté. Évidemment, il y a des grosses convergences, heureusement, mais parfois on voit que De Gaulle se donne un petit peu le beau rôle, déjà, et puis dans d'autres cas, on voit qu'il est beaucoup plus critique. J'ai fait la même chose du côté de l'Allemagne, parce que les Français se sont battus contre les Allemands, comme chacun sait, et qu'il est toujours intéressant d'avoir le point de vue de l'ennemi. Alors en Allemagne, c'est un peu plus compliqué, parce que les archives des régiments allemands sont dans le Land dont venait le régiment. Et certaines d'entre elles ont été détruites au cours de la Seconde Guerre mondiale, ce qui était le cas pour plusieurs des régiments qu'a affronté Charles de Gaulle, mais j'ai pu retrouver des traces, et c'est également vraiment intéressant d'avoir le regard des Allemands sur la manière dont a combattu non pas De Gaulle lui-même, mais son régiment ou sa compagnie. J'ai également été chercher du côté de la Belgique, où il s'est battu en 1914, et puis j'ai trouvé beaucoup de choses en Allemagne, à Munich, non pas au sujet de ses combats, mais au sujet de la période de sa captivité, puisque comme je vais vous le raconter tout à l'heure, il a été fait prisonnier pendant une très longue période, essentiellement dans des prisons qui se situaient en Bavière, et on trouve au fin fond d'un bâtiment en briques de Munich beaucoup d'archives relatives à Charles de Gaulle qui racontent son comportement de prisonnier, la manière dont il traitait les gardes allemands, souvent pas très bien d'ailleurs, et les récits de la justice allemande concernant le capitaine de Gaulle qui cherchait sans cesse à s'évader. Enfin et surtout, j'ai eu accès, grâce à la gentillesse et puis au fait que je la connaisse bien, la famille de Gaulle, j'ai eu accès à des lettres inédites à ce jour, les lettres d'un des frères de Gaulle, qui s'appelle Jacques de Gaulle, qui lui aussi a fait la Première Guerre mondiale. Alors, les quatre frères de Gaulle ont participé en tant que combattants à la Première Guerre mondiale. Et cette famille de Gaulle est une famille assez lettrée, très cultivée, et c'est comme toutes ces familles de la fin du 19e, début du 20e, une famille où on écrit beaucoup. On a perdu ça aujourd'hui, mais les gens s'écrivent tous les deux jours des lettres qui sont de vraies lettres, avec plusieurs pages, et où on exprime non seulement, où on décrit non seulement le quotidien, ce que l'on fait, ce qui se passe, mais aussi où on livre ses sentiments. Et ce matériau est vraiment très précieux parce qu'il nous permet de pénétrer à l'intérieur de la famille de Gaulle, de comprendre un peu les ressorts psychologiques des uns et des autres, et de voir la façon dont le frère de Gaulle considère la destinée de son frère. Alors c'est 200 lettres en tout, 200 lettres qui sont envoyées par Jacques de Gaulle à ses parents, essentiellement, et où il est régulièrement fait mention de Charles de Gaulle, qui visiblement, dès cette époque-là, est déjà un personnage dans la famille. On sent qu'il n'est pas tout à fait commun et qu'il focalise un petit peu les regards du reste de la famille. Donc ça nous permet de préciser la chronologie, de voir un peu l'état d'esprit qui règne et de voir les débats, parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord entre eux, ces De Gaulle. Hein. Il y a des débats au sein de la famille sur certains aspects de la guerre, par exemple sur la pertinence d'ouvrir un front en Europe orientale. Donc on voit tous ces débats-là. Et on sent surtout l'incroyable unité de cette famille, son incroyable patriotisme, sa foi en la France, qui est à la base de l'éducation de Charles de Gaulle et de ses frères. Alors, à partir de tous ces éléments, qu'est-ce qu'on découvre sur notre De Gaulle? Eh bien, tout d'abord, c'est un petit peu bête, hein, mais le premier aspect, qui est pourtant important, c'est qu'on découvre d'abord un combattant. C'est la première chose sur laquelle je veux insister, parce que c'est vrai, on parle toujours du général De Gaulle. Alors, on sent bien qu'il est militaire, puisqu'on dit général. Mais, en dépit de ce titre qui est accolé à son nom, il est paradoxalement rarement perçu dans sa dimension militaire. À partir de 1940, il est un général qui n'est pas directement sur le terrain à combattre avec ses troupes. Ça n'est pas le général Leclerc ou le général Delattre. Il est à la tête d'un mouvement politique doté d'une armée. C'est différent. Il est celui qui impulse les ordres à l'armée. Mais il n'est pas sur le terrain. La première guerre permet de vérifier sa dimension combattante, de voir que c'est quelqu'un qui sait se battre, qui est même combatif, voire parfois un peu même, tête brûlée, hein, dans les tranchées. Et on voit à quel point ça marque ensuite son tempérament et comment par la suite, en tant qu'homme politique, il aura toujours ses réflexes de militaire. Je rappelle que ce jeune De Gaulle a choisi très tôt d'entrer dans l'armée, à l'âge de 15 ans, en 1905, alors même que la tradition militaire est inexistante dans sa famille. Donc c'est un choix déjà, vous voyez, précoce et assez étonnant pour dans le cadre de sa famille. Et lorsqu'il sort de Saint-Cyr, en 1912, il choisit comme arme l'infanterie. L'infanterie, c'est vraiment l'arme du combattant. À l'époque, c'est l'arme de celui qui va aller offrir sa poitrine à l'ennemi et combattre vraiment dans un esprit de corps à corps. Charles de Gaulle avait refusé de choisir la cavalerie. Il avait eu ce mot en disant je n'aime pas la cavalerie parce que ça gratouille. Je pense surtout que c'était parce que la cavalerie, elle n'offrait pas cette possibilité de combattre réellement contre les yeux dans les yeux contre l'ennemi. Et donc, il va choisir de servir au sein du 33e régiment d'infanterie avant la guerre. C'est un régiment commandé par un certain colonel Pétain. C'est la première rencontre entre les deux hommes. Et vous allez voir comme c'est incroyable. Vous savez très bien que leurs destins vont se retrouver en 1940, mais ils vont aussi se croiser de manière assez incroyable au cours de la Première Guerre mondiale. Donc Charles de Gaulle combattant, on va le retrouver sur les principaux théâtres de la Première Guerre mondiale, et tout d'abord très tôt dans la chronologie, en août 1914, en Belgique, vous savez, lors de cette bataille des frontières, qui est très meurtrière, beaucoup plus meurtrière que Verdun, hein, il y a énormément de morts dans ces premières semaines de guerre, il est à la tête d'une section, il est lieutenant, un jeune lieutenant, il a 24 ans, et il est à la tête de sa section dans une ville qui s'appelle Dinan, située sur les rives de la Meuse, en Belgique. Et son régiment a reçu pour ordre de bloquer le franchissement de la Meuse aux Allemands, qui sont en train d'envahir la Belgique assez rapidement pour mettre en œuvre leur plan Schlieffen, c'est-à-dire se débarrasser de la France, prendre Paris en passant par le nord, pour ensuite se retourner contre l'ennemi russe. Il est à la tête de sa section. Sa première expérience de la guerre, elle est fulgurante. Elle correspond à peu près à la façon dont il se l'imaginait, parce qu'on a des récits de lui où il nous raconte comment, avant la guerre, il imagine le combat. Quelque chose de vigoureux, avec de l'élan, avec de l'offensive, un combat où il se décrit déjà en 1905, hein, à l'âge de 15 ans, il s'appelle le général de Gaulle et il se décrit à la tête des armées françaises. Donc, vous voyez, il porte ce rêve en lui et la bataille de Dinan ressemble assez bien à ce rêve. Lorsque c'est à lui de s'élancer avec sa section, parce que les Français sont en très mauvaise posture, en train de se replier devant un afflux d'Allemands qui n'était pas très bien prévu, il s'élance avec sa section en avant, hein, comme sur une image d'Épinal, et il s'élance en avant vers le pont pour défendre le franchissement de la Meuse, et ça dure 3 secondes. Au bout de 3 secondes, il sent une immense douleur à son genou droit, il est fauché, et il tombe blessé. C'est sa première blessure, donc sa première guerre a duré, son premier combat, quelques secondes. Autour de lui, tout le monde s'écroule, certains hommes de sa section sont tués sur le coup, notamment son sergent qui lui tombe dessus. Il y avait un nom pourtant pas prédestiné pour lui tomber dessus, qui s'appelait le sergent Debout. Il meurt sur lui et le combat s'arrête là. Alors cette première expérience, vous vous rendez bien compte qu'il n'a pas le temps vraiment de comprendre ce qui se passe, d'en voir plus. Il est évacué vers l'arrière et il ne va revenir sur le front qu'à l'hiver 1914 en Champagne. Quand il revient, Entre-temps, parce que je ne sais pas si vous avez la chronologie de cette guerre en tête, après le reflux de la bataille des frontières, les Français se sont ressaisis pendant la bataille de la Marne en septembre 1914 et ont pu établir, bloquer le front sur une ligne qui désormais va de la mer du Nord à la Suisse, et c'est l'immobilisation du front. Et quand de Gaulle revient en Champagne, la guerre a radicalement changé de visage sans que lui-même ait pu assister à ce retournement puisqu'il était à l'arrière en train de se faire soigner. Et il va comprendre très vite ce qui est en train de se passer. Il va très rapidement prendre conscience que la guerre a changé de nature et que finalement l'armée française, tout comme l'armée allemande, n'est pas prête du tout à ce changement et n'a pas été éduquée pour faire face à cette guerre d'immobilisation. Il va connaître la vie des tranchées en tant que lieutenant puis en tant que capitaine, avec deux visions successives. C'est que, vous voyez, il est déjà repéré par son colonel comme étant un élément un petit peu exceptionnel de son régiment, puisque le colonel, qui s'appelle à l'époque le colonel Claudel, lui demande de devenir son adjoint. Donc de Gaulle cesse d'être à la tête des hommes sur le terrain et il devient l'adjoint de son colonel, c'est-à-dire un poste d'abord un peu moins dangereux dans les tranchées, puisqu'il est au PC avec le colonel, et c'est lui qui va faire transiter tous les ordres du colonel vers les hommes, qui va préparer les ordres écrits du colonel, et on sent très bien la patte de Gaulle dans le JMO et dans les ordres qui sont rédigés à cette époque-là. Et puis, il va ensuite retourner à la tête d'une section. C'est à ce moment-là qu'il connaît sans doute l'épisode le plus dur de toute la guerre pour le 33e régiment d'infanterie. C'est une bataille qui est un peu oubliée aujourd'hui, son nom est moins connu que d'autres batailles. C'est la bataille de Mesnil-les-Hurlus, près de l'Aisne, en février 1915. C'est une bataille épouvantable. Quand vous lisez le JMO, c'est comme un scénario de film de guerre absolument monstrueux, où les hommes sont lancés à l'assaut à 8 heures du matin, n'en reviennent que la moitié, les autres sont perdus. Il faut relancer un assaut à 10 heures du matin, avec le même bilan, et l'ordre est donné de relancer un troisième assaut à 15 heures, etc., pendant des jours et des jours, qui paraissent très longs, c'est 15 jours, mais ça paraît extrêmement long, avec une perte en hommes qui est absolument incroyable. Le JMO, quand on le lit, par exemple, le 18 février, l'ordre est donné, c'est cité dans le texte, l'ordre est donné aux hommes d'attaquer jusqu'à complète usure. Ce sont les termes du JMO. Complète usure, vous comprenez bien que c'est complète usure de l'adversaire, bien entendu, mais c'est surtout complète usure de ses propres forces, parce que personne, à ce rythme-là, ne va en réchapper. De Gaulle, en tant qu'adjoint au colonel, quelle est sa position? Il assiste à cette immense boucherie. Il voit très bien qu'aucun terrain n'est gagné malgré ses pertes colossales. Mais lui, il est chargé de répercuter les ordres de sa hiérarchie. Il est officier de carrière. Il est convaincu par la justesse de cette guerre. Il est convaincu par le fait que s'il désobéit, c'est tout le système qui s'écroulera. Il répercute les ordres parfaitement et il a des discours qui peuvent paraître un petit peu hallucinants dans ce contexte. Par exemple, le 14 février 1915, il exhorte les hommes, il leur dit, les heures dont peut disposer le régiment avant l'attaque sont comptées. Il importe de ne pas en perdre une seule pour la préparation de l'effort prochain. Il importe aussi de ne pas gémir en vain sur les conditions matérielles qui sont mauvaises, mais contre lesquelles il faut lutter de toute son énergie si l'on veut réussir. Donc on retient cette citation, ne pas gémir en vain. Je pense que si des gens avaient une raison de gémir à ce moment-là, c'était bien les soldats de Mesnil-les-Hurlus. Mais de Gaulle est là pour que cette guerre soit gagnée, et officiellement, il est obligé d'y croire. On verra après qu'est en train de se passer en lui une évolution qui l'éloigne de plus en plus de cette conviction-là, mais il n'en laisse rien paraître, le service de l'État avant toute chose. Il est blessé de nouveau dans l'Aisne en février 1915, de nouveau évacué. Cette blessure d'ailleurs, cette blessure à la main va entraîner le fait que par la suite, quand il sera marié, il ne pourra pas porter son alliance à la main gauche. Il la mettra, vous verrez sur les photos, toujours à la main droite. Il est blessé et revient fin 1915, toujours dans l'Aisne. Et là, on a des lettres tout à fait saisissantes de Gaulle. qui vit dans les tranchées avec ses hommes dans l'Aisne. C'est l'hiver, la rivière de l'Aisne et son affluent, la Miette, sont en pleine crue. Les tranchées sont envahies d'eau. Il faut même parfois évacuer les tranchées, non pas à cause de l'ennemi, mais à cause de l'eau qui monte dans le froid. Il écrit à sa maman de lui envoyer des bottes en caoutchouc, enfin il appelle ça des caoutchoucs, de lui envoyer des gants et si possible de les choisir assez grands, taille 8. Et la lettre, 15 jours après, repart à sa mère en lui disant qu'elle n'a pas pris les gants assez larges, qu'il faut qu'elle lui renvoie d'autres gants. Donc il est dans cette, voilà, dans la boue, il est dans l'eau avec ses soldats. Et c'est à ce moment-là qu'il écrit que cette guerre, c'est une guerre d'usure. Il emploie le terme « guerre d'extermination hein, », parce qu'on est dans cette logique où on est obligé d'envoyer en masse des vagues humaines sans aucun résultat. Cette période de l'Aisne s'achève en février 1916, puisque le régiment est appelé de toute urgence pour aller en renfort vers une zone qui alors est extrêmement menacée et extrêmement stratégique, qui est Verdun. Donc la bataille de Verdun, qui commence en fin février 1916, le 33e régiment d'infanterie va y être plongé dès le départ, vraiment dès les commencements de cette bataille, puisqu'ils arrivent sur place le 26 février 1916. Cette bataille de Verdun, enfin de Douaumont plutôt, puisqu'elle aura lieu au nord de Verdun, à Douaumont, elle est extrêmement importante dans notre histoire de Gaulle. Et on peut dire qu'il y a trois grands aspects qui sont vraiment importants. Tout d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est à Verdun que les chemins de Gaulle et de Pétain vont se recroiser. Ils ne vont pas se croiser directement, ils ne vont pas se rencontrer dans les tranchées. De Gaulle est un simple capitaine, il est à la tête de sa compagnie en train de bivouaquer dans les bois autour de Douaumont. Pétain, le même jour où le 33e RI arrive à Verdun, est nommé à la tête de la défense de tout le secteur de Verdun. Donc c'est le grand chef à qui on donne les clés du succès de cette opération. Ils ne se croisent pas, mais alors que Pétain est alors celui en qui on met tous les espoirs et que De Gaulle est un simple parmi les simples, est un anonyme en train de combattre, vous savez que Pétain va ressortir fin 1916 de la bataille de Verdun auréolé du titre de celui qui a gagné, le vainqueur de Verdun. Il deviendra le vainqueur de Verdun et c'est ce qui lui vaudra son bâton de maréchal par la suite. C'est au titre du vainqueur de Verdun qu'en 1940, il va être appelé en dernier recours pour prendre les rênes de la France et pour former un gouvernement au moment où la France est acculée par les Allemands et est défaite. C'est au nom de ce titre de vainqueur de Verdun. Eh bien, De Gaulle, c'est au nom de ce qu'il va vivre bientôt à Douaumont, au nom de vraiment l'infamie qui va être la sienne et de l'humiliation qu'il va subir en tant que prisonnier, parce que c'est à Douaumont qu'il va se faire prendre car il est blessé, c'est au nom du fait qu'il n'a pas pu continuer à combattre à Verdun en 1916, qu'en 1940, il est habité par la conviction qu'il ne faut plus jamais poser les armes et qu'il faut continuer à se battre jusqu'à ce qu'on ne puisse plus s'arrêter. Donc, lui, il arrive là porté par cette humiliation de Douaumont et il va être celui qui veut continuer à se battre en 1940 contre le vainqueur de Douaumont qui, lui, est persuadé au contraire qu'il faut signer l'armistice avec l'Allemagne nazie. Donc ce croisement est vraiment très important. Et l'autre chose importante, c'est que c'est une bataille emblématique de la Première Guerre mondiale. C'est peut-être le symbole de l'abomination absolue, hein, de 60 millions d'obus qui tombent, de 300 000 hommes qui vont être tués en une année, de 1 million de Français qui successivement vont être engagés sur ce front. De Gaulle va le pressentir, il écrit quelques jours avant à sa mère hein, une lettre où il dit qu'une bataille formidable va commencer. Il n'aura absolument pas le temps d'en voir la fin. Son combat va être très bref. Hein, en gros, le 1er mars, le 33e régiment d'infanterie doit se déplacer en pleine nuit vers le front, vers la ligne de front. On lui confie la défense du village de Douaumont, qui est déjà en ruine, puisqu'il a été bombardé copieusement par les Allemands, qui essayent de le prendre. La situation est très mauvaise. Le village est encore aux mains des Français, mais un tout petit peu sur l'ouest, il y a le fort de Douaumont. Vous savez, cet immense fort que les Français ont perdu. Mais les Français ne savent pas encore s'ils l'ont vraiment perdu ou pas. Les Allemands viennent de mettre la main sur ce fort, ils l'occupent, et ils sont vraiment quasiment dans le dos des Français en occupant ce fort et en le réarmant très rapidement. Et De Gaulle est envoyé le 1er mars par son colonel pour faire une reconnaissance sur le terrain. Et il remarque que la défense française, que la ligne de défense française est poreuse, qu'il y a un gros trou dans cette défense, justement entre le fort et le village, c'est-à-dire au pire endroit, et que là, on a vraiment une béance qui fait qu'on risque de se faire attraper, contourner par les Allemands. Alors le jour du 2 mars, le 33e RI est en position. Charles de Gaulle, c'est tout un symbole, est placé avec sa compagnie devant l'église. Il est chargé de garder ce secteur de Douaumont. En face de lui, il y a un grand ravin qui s'appelle le ravin du Chauffour. Et c'est embêtant, un ravin, quand vous devez défendre quelque chose, parce que vous ne voyez absolument pas ce qui se passe en bas. Donc il n'a pas de visibilité en bas. Il sait que derrière, à l'ouest, il y a une possibilité de se faire prendre en tenaille. Les Allemands bombardent, font vraiment un tapis de bombes pendant toute la matinée sur le village de Douaumont, puis vers midi lancent l'attaque. Et alors là, c'est là que c'est intéressant de retrouver le journal régimentaire allemand, parce qu'il nous décrit un combat d'une grande, grande dureté et d'une grande violence. Hein, les Allemands ont déjà essayé de prendre Douaumont, ils n'y sont pas parvenus, mais là, cette fois, ils s'y reprennent, ils amènent leurs troupes, et c'est un combat où ils doivent déloger les Français des ruines des maisons, des caves, qu'ils ont consolidé, et c'est un combat qui se fait au corps à corps et au lance-flammes. C'est précisé très clairement dans le JMO. Dans une grande confusion, les Français sont en plus complètement décontenancés parce que les Allemands arrivent bien en effet par derrière, et donc ils sont pris sur les deux côtés. De Gaulle, au bout d'un moment, n'a quasiment plus d'hommes autour de lui parce qu'ils sont morts, et il décide de rejoindre un des autres commandants de compagnie qui est à côté. Il s'enfonce dans un boyau avec deux de ses hommes, et là il tombe nez à nez avec des Allemands. Il n'a pas le temps de réagir, on lui enfonce un grand coup de baïonnette dans la cuisse, il s'écroule et une grenade explose qui achève de l'étourdir. Donc il s'évanouit. En réalité, sa blessure n'est pas gravissime, mais il s'évanouit, et étant évanoui, il est pris par les Allemands qui vont l'emmener de leur côté. Et de là va commencer sa grande, grande période de captivité, puisque vous voyez, il était prisonnier le 2 mars 1916 et il ne regagnera la France que le 3 décembre 1918. Donc c'est une très, très longue période qui commence pour lui. Et c'est surtout le début d'une honte infinie chez ce personnage fier. C'était chez ce personnage qui vivait son rêve depuis le début et qui avait qu'une envie, c'était de continuer à combattre. Dans ces différents combats, je l'ai dit, il fait preuve d'un réel courage physique. On le voit à la fois dans les récits qu'il fait lui-même, mais après tout, chacun essaye toujours de se présenter sous un jour courageux. Mais en effet, il écrit des lettres à ses voisins de tranchée en disant « J'allais aller vous voir quand tout à coup un obus est tombé sur ma cagna, le dîner est reporté, mais voilà, ça ne lui fait pas, ça lui fait ni chaud ni froid ». On a aussi d'autres témoignages qui le décrivent restant debout quand un obus tombe juste à côté et que les deux autres lieutenants se couchent par terre. Ça rappelle un peu son attitude lors de la libération de Paris. On a ces images filmées où on le voit près de Notre-Dame, rester debout, l'air totalement impassible, alors que toute la foule se couche par terre parce qu'il y a des tireurs sur les toits qui sont en train de canarder. Il a l'expérience très physique de la mort. Je vous ai raconté la mort de son sergent. Mais dans les tranchées, quand il monte en ligne à Douaumont, j'ai un autre témoignage d'un soldat du 33e RI qui ne comprend pas pourquoi les soldats qui viennent relever ne s'en vont pas quand ils arrivent. Ils ne s'en vont pas parce qu'ils sont assis, ils sont tous morts. Donc on a les morts. Aménil les hurlus, les parapets des tranchées se tiennent avec des morts, avec des corps. Donc il a cette expérience très concrète de la mort. Il ne s'étend jamais sur ça, du moins. Tant qu'il est combattant, tant qu'il est dans l'action, il ne nous parle jamais de sa compassion pour les victimes. Il n'a pas de mots pour ça. On verra que ça va sortir plus tard, après le traumatisme du combat. Il connaît bien ses hommes. On le voit quand on lit ses lettres, notes et carnets. Il défend les plus vulnérables. Il prend la défense d'un de ses soldats qui un jour est arrivé un peu en retard d'une permission, mais parce qu'il sait que c'est un brave gars, donc il le défend pour qu'il ne passe pas en conseil de guerre. En revanche, il est impitoyable, comme on sait que De Gaulle peut être impitoyable, il est impitoyable avec tous ceux qui essayent de resquiller ou de magouiller, ou alors avec ceux qui ne respectent pas le règlement. Alors on a cet épisode un jour où il croise un cycliste d'une autre compagnie qui ne le salue pas, alors que c'est un simple soldat et que lui, De Gaulle, est officier. Eh bien, alors qu'il est très occupé par son travail dans les tranchées, il fait une belle lettre au commandant de la compagnie pour lui signaler qu'il est inadmissible que ce soldat n'ait pas salué un officier dans la tranchée, etc. Il va par la suite garder, comme je vous le disais, ce point de vue ou cette culture combattante, cette culture militaire, non pas sous un angle autoritaire, ça n'est pas la question, mais par une vision stratégique qui ne perd jamais de vue la tactique. Il n'y a pas de mépris pour la tactique. C'est quelqu'un qui voudra toujours que l'ordre soit respecté, que les choses écrites soient respectées, qui fera preuve bien souvent d'une franchise considérée parfois comme abrupte par certains de ses collaborateurs, mais ça c'est aussi un trait militaire. Quelqu'un qui ne se prive pas de bons mots, il y a toute cette gouaille et cet humour militaire qu'on retrouve ensuite sous la Ve République. Et puis c'est quelqu'un dans la crise qui montrera qu'il sait faire preuve d'un grand sang-froid. On le voit par exemple lors de l'attentat du Petit Clamart, à un moment où vraiment il a été menacé une fois de plus par la mort et où il ressort de là assez tranquille en disant à sa femme « Vous avez été brave, Yvonne », parce qu'elle partageait ça avec lui, c'est qu'elle n'était pas quelqu'un qui s'affolait beaucoup dans ce genre de circonstances. Alors, Charles de Gaulle se retrouve donc prisonnier, ce qui est complètement contre nature pour lui. Son cas est assez banal, finalement. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. On estime que pendant la Première Guerre, environ 500 000 Français ont été dans ce cas. Il est prisonnier assez longtemps, je vous l'ai dit, 2 ans et 9 mois. Mais finalement, il est prisonnier moins longtemps que ceux qui ont été faits prisonniers en 1914. En août 14, il y a eu un très très grand nombre de prisonniers qui ont été faits. Ça a été là où il y en a eu le plus. Donc, il est dans une certaine moyenne. Je dois vous signaler que être prisonnier, à la fois, c'est un avantage parce qu'on ne risque plus de se faire tuer, il faut bien le dire, et on peut supposer qu'un certain nombre de soldats ont eu l'idée de se faire prendre pour cette raison-là. En même temps, c'est extrêmement mal vu. On a un texte de Joffre au début de la guerre, en 1914, qui décrit les prisonniers comme des êtres lâches, comme des gens qui se sont fait prendre exprès et qui seront sanctionnés à leur retour. Il n'y a pas de distinction, tous les prisonniers sont mis dans le même sac. De Gaulle a connaissance de ce texte. Il sait très bien quelle est l'image du prisonnier et lui, en tant qu'officier, trouve absolument lamentable, il l'écrit, ce sont ses mots, il trouve lamentable cette situation de prisonnier. Alors, son emprisonnement se déroule dans plusieurs lieux successifs, en Allemagne, en Lituanie, et puis surtout, comme je vous l'ai dit, en Bavière, et notamment en Bavière, dans une ville, une très belle ville d'ailleurs, qui s'appelle Ingolstadt. Et Ingolstadt qui a la particularité d'avoir une immense forteresse avec plusieurs forts. Et l'un de ces forts est le fort numéro 9. Et il est réservé aux officiers, mais pas n'importe quels officiers, tous les officiers irréductibles. Les Allemands ont eu cette idée assez discutable de regrouper au même endroit tous ceux qui avaient déjà tenté de s'évader une fois. Le commandant du fort, de l'ensemble de la forteresse, qui s'appelle le colonel Joseph Peter, reconnaît lui-même, je le cite, qu'avoir regroupé en un même lieu les pires des éléments et les plus fortes têtes était une malheureuse idée. Je continue à le citer. Le fort neuf devint un enfer, non pas pour les prisonniers, mais pour le commandant du fort et ses hommes. Bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, toutes ces fortes têtes regroupées ensemble, avec un grand nombre de Français d'ailleurs, n'ont qu'une idée en tête, ou plutôt deux. La première, c'est de faire tourner en bourrique les gardes allemands, qui sont généralement de braves gardes territoriaux qui ne sont pas sur le front. Donc ça, ils les font tourner en bourrique à longueur de journée. Par exemple, comme il y a des douves autour du fort numéro 9, ils vont lancer des gros cailloux dans l'eau pour faire croire qu'un prisonnier est en train de s'échapper, et tous les gardes vont se précipiter et il n'y aura rien du tout. Sauf que certains prisonniers réussiront effectivement à s'échapper par les douves, en inventant des systèmes de tuba, un réussira véritablement à s'évader. Une autre fois, ils réussissent à trouver un uniforme allemand. Ils forment un petit groupe et ils montent jusqu'à la tour du château. Et là, ils enlèvent le drapeau bavarois et ils le découpent en petits morceaux. Vous voyez, ce sont toujours ces blagues potaches et cette espèce d'harcèlement continuel contre la puissance qui règne. Et surtout, leur deuxième véritable préoccupation, ça va être de s'évader. C'est vraiment une espèce de devoir pour ces officiers prisonniers que de s'évader, non pas pour aller retrouver leur famille et se couler des jours heureux en France, Mais sous la plume de De Gaulle, on le retrouve à chaque fois pour rejoindre le régiment qui combat et pour continuer la lutte, hein, pas pour autre chose. Alors, De Gaulle, à Ingolstadt, fonde une véritable académie de l'évasion, hein, c'est le nom qu'il donne à ce petit groupe, avec d'autres personnages qui sont très hauts en couleur. Par exemple, il se retrouve dans la même chambrée que Georges Catroux, que vous connaissez sûrement, puisqu'il va être un de ces grands Français libres à rejoindre De Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi avec quelqu'un comme le prisonnier russe Tukhachevski, qui est un personnage très haut en couleur, puisque cet officier de l'armée du Tsar, fait prisonnier, va réussir à s'évader finalement, et en rentrant en Russie, va rallier le régime bolchevique, devenir un des grands chefs de l'armée rouge. Il va d'ailleurs combattre en 1919 en Pologne contre De Gaulle, qui lui sera avec le corps expéditionnaire français en Pologne, donc l'un contre l'autre, ce qui est assez étonnant. Et Tukhachevski finira maréchal de l'armée soviétique, fusillé dans les purges staliniennes avant la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez qu'on a quand même des personnages tout à fait avec de fortes personnalités et qui vont là travailler jour et nuit à monter les évasions. L'évasion, c'est un vrai travail. C'est-à-dire que d'abord, on ne peut pas le faire seul. Il faut des complices, ce qui montre que De Gaulle, quand il le faut, sait s'entourer et sait avoir des complices, les motiver pour arriver à mettre au point un projet. Donc il faut des complices et il faut du matériel. Du matériel, tout simplement, parce que s'évader, c'est bien beau, mais une fois que vous êtes en dehors de la forteresse d'Ingolstadt, il vous reste quand même 400 km à faire pour gagner la frontière suisse. Donc il vous faut des habits civils, des cartes, une boussole, de la nourriture, etc. Donc il faut tout ce matériel nécessaire à l'évasion. Alors, l'histoire de De Gaulle prisonnier, elle est assez connue sous l'angle, justement, de ses tentatives d'évasion, parce qu'en 1927, il a fait toute une démarche, tout un dossier pour obtenir la médaille des évadés, qui a été mise en place à l'époque, par, d'ailleurs, sous l'influence d'un de ses anciens camarades de captivité. Vous voyez un peu le besoin de reconnaissance qu'il avait de son expérience de prisonnier, c'est-à-dire que la médaille d'évadé, c'était un moyen de compenser l'humiliation de s'être fait prendre. Donc il fait tout un dossier pour raconter ses évasions, et en effet, il est assez efficace puisqu'il réussit à s'évader 5 fois. Alors par des moyens, mais tout à fait rocambolesques, par exemple, la première évasion d'Ingolstadt, il a réussi à se procurer une substance chimique qui l'ingurgite et qui donne tous les symptômes, en gros, de la jaunisse. Et donc, son but est de se faire évacuer à l'hôpital militaire qui est en dehors de la forteresse. Et là, il monte un plan avec un autre prisonnier et ils réussissent à s'évader de cet hôpital parce que c'est beaucoup plus simple que de la prison. Donc ça, c'est une première technique. Une autre fois, quand il est envoyé dans une autre forteresse à Rosenberg, là, il monte un plan avec 5 autres Français parce que la forteresse est mise sur un piton rocheux qui fait 60 mètres de haut. Et il demande à sa mère, dans une lettre codée, parce que la censure allemande veille à tout ce qui est écrit, donc il invente un code que j'ai réussi à décrypter, et il lui demande de lui envoyer des draps. Et avec ces draps, il va tisser pendant des jours et des jours une grande corde de 40 mètres de long pour franchir cette fichue muraille. Et un jour d'orage, quand la pluie est battante et que les gardiens ne peuvent pas entendre ce qui se passe, ils réussissent à leur fausser compagnie et à descendre avec leurs cordes et à s'évader. Alors, vous allez me dire, il s'évade 5 fois, ça veut dire que 5 fois, il est repris. Eh bien oui, il est repris 5 fois. Le problème, c'est que Charles de Gaulle n'est pas très discret. Il est très grand. Il parle allemand avec un très, très gros accent français. Et donc, dans la population civile allemande, il ne peut pas tellement passer inaperçu. Et donc, il se fait reprendre à chaque fois, ce qui provoque en lui à la fois un désespoir colossal et une rage absolument épouvantable, à tel point que l'une des dernières fois où il se fait reprendre, dans le train, par la police allemande qui fait un contrôle, il se fâche réellement et il en vient un peu aux mains avec le policier, il le bouscule et il le traite de Schwein, c'est-à-dire de cochon. C'est une insulte tout à fait banale. On retrouve beaucoup de jugements de prisonniers français ayant traité leur garde de Schwein. Et il est jugé par un tribunal militaire allemand qui le condamne à 60 jours de prison dans une autre prison. Donc il doit effectuer cette peine. Donc il est vraiment en rage et il est dans un tel état de désespoir que la 5e tentative est vraiment la plus concernante d'une certaine façon parce qu'il en arrive a trouvé le moyen de sortir de la prison dans un panier de linge sale, parce qu'il avait remarqué que le panier de linge sale était sorti chaque jour de la prison. Alors, je ne sais pas comment il a réussi, le panier devait être très grand, et il réussit finalement à sortir de la prison dans ce panier, à en sortir, mais il se fait encore une fois reprendre. Alors, donc tout ça est plutôt amusant et c'est vrai, montre un peu quand même la ténacité et l'entêtement du personnage. Mais le plus intéressant est sans doute ailleurs, dans ce qu'on ne voit pas, hein, dans ce qui est moins anecdotique, c'est dans la maturation intérieure qui est en train de se produire chez Charles de Gaulle. On a tous les ingrédients qui sont réunis pour provoquer une prodigieuse évolution chez ce personnage. On a d'abord, comme je vous l'ai dit, un officier qui est habité par une vision, qui rêve de se battre depuis qu'il est tout petit, qui est nourri par la pensée des anciens, quelqu'un qui a une grande culture littéraire, qui est nourri par une vision de la France que lui a donnée son père, lui-même ancien combattant de la guerre de 1870, perdu par la France contre l'Allemagne, donc il porte cet héritage et cette volonté de revanche en lui. On a ensuite un officier qui est profondément humilié par le fait de s'être fait prendre. Il écrit à sa mère des lettres déchirantes, par exemple, « Combien je pleure dans mon cœur de cette odieuse captivité, ma chère petite maman. » Et chaque lettre est comme ça absolument désespérée. Dans toutes ces lettres, il déplore de ne pas pouvoir continuer à se battre, et son frère, Jacques de Gaulle, dont je vous ai parlé, le comprend complètement. Il écrit, au moment où il apprend que son frère a été fait prisonnier, d'abord il est soulagé, parce que tout le monde le pensait mort, y compris son régiment, qui lui fait une citation en disant « mort, mort pour la France ». Et son propre père est fier que son fils soit mort pour la patrie. Donc finalement, c'est un certain soulagement d'apprendre qu'il est prisonnier. Mais Jacques écrit, je le cite, « Pauvre Charles, comme son sort ne ressemble pas à celui qu'il avait rêvé. Hélas, combien d'autres hommes d'élite auront ainsi disparu de la scène de la guerre, précisément parce qu'ils étaient des hommes d'élite. S'il l'avait voulu, Charles aurait pu faire partie de ces officiers d'état-major qui font la guerre de château, couverts d'une gloire brillante, acquise sans péril, aspergés de grades et de décorations, et qui regardent de haut en bas le vulgaire et peu intéressant officier de troupe. » Vous voyez la critique, chez le frère de Gaulle vis-à-vis d'une certaine partie de l'armée. Mais Charles a le cœur trop haut pour cela. Il a préféré le danger et le sacrifice. Il a le droit d'en être fier comme nous le sommes nous-mêmes de lui. Mais quelle souffrance pour lui de se sentir ainsi inutile. » Donc voilà un frère qui comprend parfaitement ce qu'est en train de vivre son Charles. Alors quelle réaction tout cela provoque-t-il chez cet esprit déjà très, très éveillé de Charles de Gaulle, même si c'est un homme encore très jeune? Eh bien, sa première réaction, parallèlement au fait qu'il cherche tout le temps à s'évader, ça va être de se battre intérieurement. Se battre intérieurement, ça veut dire qu'il va se nourrir l'esprit. Il va lire, il va tout lire. Alors, je ne vous ai pas précisé, mais les prisons de la Première Guerre mondiale en Allemagne n'ont rien à voir avec les Auflag de la Seconde Guerre. On est dans un autre monde, on est dans un monde normal, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des conventions qui sont parfaitement respectées, les conventions de la haie, et qui font qu'un officier prisonnier a d'abord une chambre à lui, à peu près. Il peut bénéficier des services d'un ordonnance pour retirer ses bottes, pour préparer ses affaires. Il peut recevoir des colis de sa famille et des lettres censurées, mais il peut en recevoir. Il peut prier. Il y a une chapelle dans chaque forteresse. Il peut faire du sport. Il y a des terrains de tennis, il y a des terrains de football. Et il peut lire parce qu'il y a des bibliothèques. À Ingolstadt, la bibliothèque comporte 1000 ouvrages pour le Fort Neuf, qui sont soit fournis par les prisonniers qui les achètent, ou par les familles, ou par des bonnes œuvres qui en envoient dans les camps. Donc ils ont à disposition de quoi lire. Et Charles de Gaulle va tout lire. D'abord, il lit beaucoup les journaux allemands, journaux français qu'il réussit à se procurer en contrebande. Et à partir de ces journaux, il fait des comptes rendus, évidemment, sans reprendre le point de vue de la propagande allemande, mais en prenant celle des Français, et qu'il affiche ses comptes rendus sur la porte des casemates pour bien montrer que on continue à croire en la victoire française. Et puis il lit beaucoup de livres. Alors dans ses lettres, notes et carnets, il nous énumère tout ce qu'il a lu en 1916-1917, c'est proprement frappant. Il lit énormément de biographies, ouvrage historique. Il se cultive sur la guerre parce qu'il est dans une guerre lui-même et il veut s'inspirer des autres historiens des guerres pour voir comment comprendre celle-ci. Donc, par exemple, il va lire beaucoup de livres sur les guerres du Péloponnèse, qui paraissent très lointaines, mais qu'il va utiliser ici, ou sur les guerres puniques. Il lit Balzac, hein, il lit des romans, alors il lit Pobouille de Zola. Il écrit en passant, je cite, « Cet auteur a le génie de l'ordure », bon, c'est son avis. Il lit aussi un ouvrage totalement inattendu sur la danse. Alors, je ne sais pas pourquoi il a choisi ce livre. Je ne sais pas s'il n'avait plus rien à lire ou parce que tout d'un coup, je ne sais pas. Donc, il nous fait une citation, hein, il note dans ses lettres, notes des carnets, dans la danse du ventre. La femme danse seule et danse pour l'homme. Dans la valse, la femme et l'homme dansent tous les deux. Mais que dire alors de nos tangos de femmes par deux et des danseuses nues, des musicaux? C'est pour vous dire que c'est un jeune homme de 25 ans et que le temps doit paraître bien long dans les prisons allemandes. Donc voilà, ce genre de lecture était aussi un moyen de répondre à ça. Il y a aussi, et surtout bien entendu, des ouvrages plus sérieux, et notamment un d'eux qui va avoir une grande influence sur sa pensée de l'entre-deux-guerres, et qui est l'ouvrage d'un auteur allemand qui s'appelle von Bernhardi, et qui écrit un livre qui s'appelle « L'Allemagne et la prochaine guerre », dans lequel il analyse les rapports entre le politique et le militaire, et comment les divisions d'un pays peuvent conduire à sa défaite. Ça va avoir une influence majeure sur la pensée de Gaulle. Alors, il lit, et puis, au-delà de la lecture, il analyse. Il analyse ce qui vient de se passer, c'est-à-dire qu'il fait lui-même un retour sur son expérience de combattant. Et là, on voit se déployer très rapidement, et de manière vraiment virulente, un esprit critique et une compassion qu'on n'avait pas remarquée jusqu'à présent. Il réfléchit sur le sacrifice humain et sur son inutilité, et il va faire devant ses camarades, ça aussi c'était quelque chose qui se faisait souvent dans les prisons, des conférences, parce que ces prisonniers s'ennuient malgré tout. Et pour s'occuper intellectuellement, ils se font les uns aux autres des conférences. Celui qui est spécialiste des chevaux va faire une conférence sur la cavalerie. Celui qui est spécialiste de Bergson va parler du philosophe à ses camarades. De Gaulle, lui, son sujet, son dada, si on peut dire, c'est la stratégie, c'est la politique et le militaire. Et il leur explique à ses camarades, hein, il réfléchit à la guerre, je le cite, « Il faut développer, dans l'esprit de nos chefs, la notion de la valeur exacte des moyens militaires qu'ils emploient et dans leur cœur, le culte des faibles pertes de l'infanterie. » Donc, 1917, il a tiré les leçons de la bataille de Tranchée et il nous décrit dans cette même conférence, alors là, avec des accents quand même très différents de ceux qu'il avait quand il était l'adjoint de son chef de corps, il nous décrit les combats. Et il nous décrit, je le cite, « les fantassins qui se rappellent avec tristesse et amertume ces terrains d'attaque lamentables où chaque jour de nouveaux cadavres s'entassaient dans la boue immonde. Ces ordres d'assaut, coûte que coûte, donnés par téléphone, par un commandement si lointain, après des préparations d'artillerie dérisoires ou mal réglées. Ces assauts sans illusion, exécutés contre des réseaux de fils de fer intacts et profonds, où les meilleurs officiers et les meilleurs soldats allaient se prendre et se faire tuer comme des mousses dans des toiles d'araignées. Les défaillances ultérieures de certaines unités dont vous avez tous entendu parler, on est en 1917, donc il fait visiblement allusion aux mutineries qui ont eu lieu après l'offensive du chemin des Dames. Donc ces défaillances n'ont guère, à mon humble avis, d'autres motifs que la démoralisation résultant de ces expériences lamentables où l'infanterie qui en fut l'instrument toucha, je vous l'assure, le fond du désespoir. Je ne sais pas si vous remarquez quand même l'immense pas qu'a accompli cet officier de carrière qui en vient dans cette conférence à excuser les mutineries et à dire qu'elles sont justifiées, hein, qu'elles sont motivées par la démoralisation des troupes. Donc là, on a quand même une vraie réflexion qui est en train de se faire et qui va s'accentuer ensuite pendant l'entre-deux-guerres. Alors, il analyse ce qu'il a vécu et il refait ses forces intellectuelles, il nourrit son esprit. Et moi, à mes yeux, il prépare la prochaine guerre, déjà. C'est tellement évident quand on le lit que, enfin, c'est en même temps frappant, mais c'est évident. Le De Gaulle de 1940 est en germe chez le prisonnier de 1917. Et vraiment, on peut dire qu'en deux ans, en 1918, les grandes structures, les grands axes de sa pensée sont aboutis, ils sont posés. Bien sûr, ils vont se développer, ils vont s'affiner, mais les grandes idées de la pensée gaullienne, on les retrouve ici en 1918. Par exemple, on a très présente dans ses notes et dans ses conférences la figure du chef, la réflexion sur l'autorité. En 1916, je vous rappelle, il n'a que 26 ans, il écrit quelque chose qu'il va appliquer jusqu'à la fin, quand il sera président de la République. Il nous dit « Il faut être un homme de caractère, se dominer soi-même. Il faut parler peu. Dans l'action, il ne faut rien dire. Le chef est celui qui ne parle pas. » Et on aura cette maîtrise de la parole par De Gaulle une fois qu'il sera président de la République. Et on sait aussi qu'à certains moments de crise, il saura garder le silence. Par exemple, en mai 1968, quand il part à Baden-Baden, il garde le silence. Ces propos de 1916, on les retrouve mot pour mot dans Le fil de l'épée, un ouvrage qu'il écrit en 1932. C'est une phrase pour vous le montrer. Il dit « Rien ne rehausse l'autorité mieux que le silence ». Donc constance de cette pensée d'un bout à l'autre de son existence. Il esquisse ce que va être plus tard le gaullisme de guerre, c'est-à-dire la rencontre entre un homme et des circonstances exceptionnelles. Et il a des passages entiers sur le fait que la France s'est faite par les batailles, idée qu'on retrouvera dans La France et son armée, par exemple, et que la guerre, c'est le moment exceptionnel qui permet l'émergence d'hommes exceptionnels. Il parle de Napoléon, bien sûr, à cet égard, mais là aussi, une petite phrase très piquante qui n'a jamais été relevée, alors que pourtant elle est très nette. Il dit dans sa conférence, « Sans la guerre actuelle, donc la guerre de 14-18, le général P eût fini à la tête d'une brigade. » Le général P, c'est le général Pétain. Donc c'est vous dire déjà qu'en 1917, il a quand même vis-à-vis de Pétain un respect très très mesuré. Donc il ne va pas aller en s'améliorant par la suite. Il développe son esprit critique. Le rebelle de 40, il est déjà rebelle. Quand vous dites à vos camarades que les mutins ont raison de se révolter parce qu'il y en a marre d'être démoralisé par ces batailles inutiles, c'est déjà de la rébellion. Donc le rebelle est là, il développe son esprit critique vis-à-vis du haut commandement. Il critique le fait que le haut commandement n'arrive pas à garder le contact avec les hommes une fois qu'ils sont sortis des tranchées. On ne peut plus les rappeler, on ne peut plus les commander. Et il préconise déjà une infanterie qui serait spécialisée à l'extrême, c'est-à-dire des groupes d'infanterie spécialisés dans les assauts pour prendre très vite une tranchée. Une partie de l'infanterie spécialisée dans les communications pour installer le téléphone très vite. On est peu à peu en chemin vers ce que va être l'armée de métier. Et cet ouvrage qu'il publie dans l'entre-deux-guerres pour défendre une armée professionnalisée, parce qu'il constate que la guerre est de plus en plus technique. Avec une armée de conscrits, ne peut pas forcément répondre à cette demande. Et puis surtout, on a l'idée vraiment qui est, à mes yeux, à la base de ce que sera le gaullisme politique, c'est que les circonstances doivent décider et non pas des théories toutes prêtes à l'avance. Il dit l'instruction d'un bataillon en vue d'une attaque doit s'inspirer de ce qui est possible à exécuter dans la réalité. Et dans le même esprit, j'espère qu'il n'y a pas de polytechnicien dans la salle, donc dans le même esprit, il dénonce en septembre 1917, je le cite, le règne de l'école polytechnique, dont une des funestes influences sur l'esprit de ceux qu'elle a formés, est de leur donner le seul goût des jugements a priori. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, qui perdure aujourd'hui et qui est, à mon avis, néfaste à la prise de bonnes décisions. À mon avis, quand il dit ça, en 1917, il vise notamment le général Nivelle, qui est polytechnicien, et qui vient de s'illustrer par 350 000 morts dans la bataille du chemin des Dames. Donc, c'est possible que ce soit ce général qui l'a lui inspiré. Donc, le gaullisme, enfin, la vraie décision doit résulter d'une analyse des circonstances et non pas de théorie toute prête. Enfin, plus qu'une réflexion sur la guerre, ou au-delà de cette réflexion sur la guerre, il se livre à une analyse de la France. Sa véritable passion, c'est déjà la France, des rapports entre le politique et le militaire, entre l'armée et la nation. Et déjà, il écrit, et ça on le retrouvera aussi sous la Ve République, je le cite, « Comme les individus, les peuples ont des caractères propres qui les rendent plus ou moins aptes à progresser dans telle ou telle branche de l'activité humaine. » C'est cet attachement à l'idée de peuple, à l'idée d'identité des peuples, ce qui a fait croire à De Gaulle que l'URSS, par exemple, n'aurait qu'un temps, puisque le peuple russe était, à ses yeux, une entité beaucoup plus puissante que cette simple conjoncture politique qu'était l'Union soviétique. Et puis, il travaille à la genèse de ce que va être la discorde chez l'ennemi, le livre qu'il publie en 1924, mais au-delà à ce que sera sa vision de la France, c'est-à-dire qu'il faut qu'un peuple, je le cite, soit uni à l'intérieur pour être à la hauteur des circonstances. Cette idée de l'unité de la nation, c'est vraiment aussi un des chevaux de bataille de Gaulle, hein, pendant la Ve République. Il n'y a pas de France forte sans une forte France qui soit unie à l'intérieur. C'est annonciateur de la thématique de la grandeur. Alors, pour terminer, cette Première Guerre mondiale, il en a peu parlé. Simplement, on voit qu'au fur et à mesure du temps, son souvenir va lui être de plus en plus pénible. Un des très rares témoignages qu'il en fait, c'est en 1945, et ça se fait dans des circonstances pas anodines du tout. Il est avec Geneviève de Gaulle, justement, sa nièce, qui rentre tout juste de Ravensbrück, où elle vient de vivre, comme vous pouvez le savoir, le pire des enfers. Et ils parlent beaucoup tous les deux, elle lui raconte son expérience de déporté, et à un moment donné, il pleure. Elle décrit, Geneviève de Gaulle, que son oncle a les larmes aux yeux et qu'il lui dit que ça lui rappelle sa Première Guerre mondiale, et il ajoute « Cette guerre m'a laminé l'âme ». C'est un propos bref, très fort, qui montre que ça a été pour lui une expérience plus qu'abrasive, hein, à la fois parce qu'il a vu tous ces hommes mourir pour rien et puis que lui-même a subi quelque chose de très difficile. Lorsqu'il va regagner la France le 1er décembre 1918, évidemment, il éprouve une véritable joie, mais en même temps, il écrit, hein, qu'il éprouve un regret indescriptible, il écrit à sa mère, et il ajoute, qui est là aussi très annonciateur, il veut ce regret qu'il me serve d'aiguillon à penser et à agir mieux et davantage. Et tout le ressort du personnage est là, c'est exactement ça. Il va vouloir continuer à faire plus. Ayant dû faire moins à partir de 1916, il va vouloir se battre plus. Et il devine, dès 1918, que la paix est complètement illusoire. Il sait que l'Allemagne a perdu la guerre, mais pas sur le terrain militaire. Elle l'a perdue en raison d'un effondrement politique intérieur. Et il redoute ce qui va se passer par la suite. Il annonce très tôt la supposée arrivée d'un conflit suivant. Et évidemment, pour la guerre suivante, il compte bien cette fois avoir sa part. Je vous remercie.